Voilà. Alors, comme sujet de cette conférence, donc, je voulais parler de la vie monastique, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le... On m'entend pas bien ? Oui ? Voilà. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est donc le millénaire de notre monastère, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas du tout l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, très rapidement, je fais un tout petit historique. Notre monastère a donc été fondé probablement en 1010, et c'était à l'époque un monastère relativement assez modeste. À la Révolution française, il a été obligé de fermer, comme tous les monastères de France, vous le savez, et c'est seulement en 1833 qu'un prêtre du diocèse du Mans, l'abbé Guéranger, rendu célèbre par ses travaux sur la liturgie, a racheté ce qui restait du prieuré de Solesmes pour y restaurer la vie monastique bénédictine. La vie monastique avait été restaurée en France déjà en 1814, à, si je ne me trompe, à la Trappe, l'abbaye cistercienne de la Mellerie. Donc les trappistes ont été restaurés en France dès 1814. Mais il restait les bénédictins proprement dit. Et c'est donc en 1833 que l'abbé Guéranger, avec bien sûr l'autorisation de l'évêque du Mans, a, avec seulement 3 ou 4 compagnons, et dans une situation de grande pauvreté, de grande précarité, a racheté donc ce prieuré et a restauré la vie monastique bénédictine. Après des débuts très difficiles, le pape Grégoire XVI a reconnu officiellement la nouvelle communauté en 1837. C'est à ce moment-là que le prieuré de Solesmes a pris le titre d'abbaye, avec à sa tête un abbé. Hein ? Vous savez que le terme abbé veut dire père, donc un père spirituel, abbé, un abbé dépendant directement du Saint-Siège. Donc, alors, très rapidement, donc, les grandes caractéristiques de notre communauté, c'est, comme je le disais ce matin pendant l'homélie, la prière communautaire, donc l'office divin, avec bien sûr donc l'importance donnée au chant grégorien, non pas pour lui-même, dans un but purement esthétique, mais comme un support de prière, de contemplation, bien sûr. L'importance donnée donc à la prière, l'importance donnée à l'office divin, l'importance donnée à l'étude, dans la mesure où elle permet d'approfondir la parole de Dieu, importance donnée à la vie communautaire, selon le modèle qui nous est donné par les actes des apôtres, la vie des premiers chrétiens qui s'efforçaient de mettre tout en commun. Voilà donc, je crois, les principales caractéristiques de notre monastère, avec comme donc très particulier aussi, et ceci dès le 19e, l'attachement très particulier de l'abbaye de Solesmes au siège apostolique, donc, et le fait qu'à Solesmes, eh bien, nous tenons à être, comment dirais-je, à mettre en valeur, à diffuser, à défendre l'enseignement des papes, donc bien sûr du pape actuel et de tous les papes et de tous les conciles. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, très brièvement, notre communauté présentée, quitte à ce que je réponde à vos questions quand cette conférence sera terminée, pour répondre déjà à une question que l'on me pose souvent. Actuellement, nous sommes une 60aine. Après la Seconde Guerre mondiale, nous étions presque 130. Et c'est à ce moment-là que, comme on ne tenait plus en place, on a été obligé de fonder l'abbaye de Fongombeau dans le Berry. Depuis, nous avons fondé Cœur Moussa au Sénégal et plus récemment encore Palindré en Lituanie. Par ailleurs, nous avons l'abbaye de Solesmes est à la tête, si l'on peut dire, d'une congrégation, d'une réunion de monastères, et on a 40, la moitié d'hommes, la moitié de femmes, qui se trouvent sur tous les continents maintenant. Et notamment, vous avez un monastère, deux monastères même, à la Martinique, donc au Carbet, donc qui font partie de notre congrégation. Il y a par ailleurs une douzaine de congrégations bénédictines, en dehors même de celle de Solesmes. Alors voilà, si vous voulez, présenter très rapidement l'abbaye Solesmes. Alors maintenant, la vie monastique, eh bien, elle est née, elle n'est pas née tout de suite. Et ça se comprend, car les premiers chrétiens, si vous voulez, ne pouvaient pas, étant semi-clandestins, créer des communautés de type monastique. Mais il y a tout de même la communauté des biens qui nous est écrite dans les Actes des Apôtres. Il y avait dans les premiers siècles des ermites qui renonçaient au monde pour vivre à la lisière des villages, pour prier, pour lire l'Écriture, pour travailler aussi, et éventuellement accueillir des pauvres. Il y avait dans les premiers siècles des vierges consacrées qui vivaient une vie quasiment monastique. Et on a pu dire que c'est peut-être le début de la vie monastique avec ces vierges consacrées. Et puis, au IVe siècle, il y a eu en Égypte les ermites, les ascètes, qui partaient dans le désert pour rechercher Dieu. Après, il y a eu des communautés, j'appelle des communautés cénobitiques, c'est-à-dire des communautés de moines ne se contentant pas d'être ermites dans le désert, mais se regroupant entre eux pour vivre une vie commune. Tout ceci en Égypte dès le IVe siècle. Alors notre monachisme se rattache lui particulièrement à Saint-Benoît. Alors je vous rappelle ces dates à peu près. 480 et on ne sait pas exactement la date de sa mort, peut-être 560, avec un texte qui est devenu célèbre, la règle des moines qu'il a écrite, qui petit à petit s'est répandue dans toute l'Europe occidentale et a supplanté les autres règles monastiques qui existaient avant et qui étaient très nombreuses. Vous aviez la règle en Provence de Saint-Césaire, la règle en Espagne de Saint-Fructueux, d'autres règles encore. Et finalement, la règle de Saint-Benoît s'est imposée à cause de son équilibre et a même été rendue quasiment obligatoire par l'autorité à peu près vers 814. Donc le monachisme occidental, à ce moment-là, est devenu vraiment bénédictin. Alors, ce monachisme bénédictin, cette règle de Saint-Benoît, se caractérise par un caractère relativement modéré. Modéré non pas contre aux exigences de l'obéissance, de l'humilité, de la charité, mais modéré contre aux observances extérieures. Le jeûne, par exemple, chez nous, et c'est vrai encore à Solesmes, est relativement modéré. Avant la Révolution, tous les moines bénédictins s'abstenaient de viande, tous les jours. Et alors Don Guéranger, en fondant Solesmes, s'est aperçu que les santé était telle, déjà à son époque, que cette abstention de viande n'était plus possible. Alors il a décidé, c'est ce que nous faisons, que l'on prendrait de la viande certains jours par semaine. Donc un caractère assez modéré des observances. De même, chez saint Benoît, le sommeil est long, puisque si on lit bien la Sainte Règle, on prévoit pour les moines 8 heures de sommeil. Actuellement, nous en avons plutôt moins. Donc nous ne nous levons pas au milieu de la nuit. Donc, comme font encore les cisterciens sont une réforme de l'ordre de Saint-Benoît, donc, mais ils suivent la règle de Saint-Benoît, donc on les appelle aussi trappistes, donc ils sont nés au Moyen-Âge. Alors nous, donc, nous avons une nuit continue. Mais par contre, la Sainte Règle est exigeante pour le support des difficultés, l'humilité, la patience. Donc, une grande exigence intérieure, si vous voulez. Donc, plus que extérieur. Saint Benoît veut que la sainteté ne soit pas le résultat d'une sorte d'activité fiévreuse, qui est un peu toujours notre tentation. Elle vient vraiment de la grâce du Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être moine? Peut-être que je parlerai tout à l'heure de la manière dont on le devient, mais disons qu'on devient moine à part entière quand on a prononcé ses vœux, c'est-à-dire l'engagement définitif par lequel on se lie à Jésus dans le monastère. Il n'y a rien là d'étonnant, puisque de même que l'Évangile dit que le lien entre l'homme et la femme dans le mariage est indissoluble, eh bien il est normal que le moine ou la moniale qui se consacre à Dieu et renonce au mariage contracte avec le Seigneur un engagement définitif, analogue à celui du mariage. Alors, je vous dis tout de suite que depuis le 19e, avant les vœux définitifs, ce qu'on appelle aussi chez nous les vœux solennels, il y a une période de 3 ans où nous prononçons des vœux temporaires pour 3 ans. Et c'est un peu un moment de probation où l'on peut encore, si vous voulez, réfléchir et éventuellement changer d'avis. Mais en principe, après viennent les vœux solennels qui sont cet engagement spirituel définitif. Chez nous, les vœux comportent cette formule qu'on promet devant Dieu et devant les saints dont les reliques sont conservées dans le monastère, la formule classique. On promet la stabilité dans le monastère, première chose, et la conversion des mœurs. Alors que veut dire cela? Eh bien d'abord la stabilité. Un monastère bénédictin est à lui seul une petite famille. Il a à sa tête un père, un abbé, et donc on promet de rester dans ce monastère. Bien sûr, le père abbé peut, dans certains cas, envoyer un moine à l'extérieur pour différentes raisons, notamment dans une fondation, comme celle de Lituanie. Mais en principe, on fait vœu de stabilité. Il y a par ailleurs une clôture, et pour sortir du monastère, il faut toujours demander la permission du père abbé. Et, pour donner des exemples concrets, on demande sa bénédiction. Donc toujours, comme je l'ai fait ce matin, et puis au retour, on demande à nouveau sa bénédiction. C'est ce que prévoit d'ailleurs la règle. Le monastère est une famille, hein, et donc il y a une stabilité. Alors je vous dis tout de suite que cette famille qu'est le monastère, elle a une analogie, une ressemblance d'avec la famille naturelle. Il y a un père. Hein. Mais attention, le père du monastère, l'abbé, représente le Christ. Vous me direz que le père et la mère de famille, en principe, dans une famille chrétienne, représentent aussi Dieu. Mais il faut bien voir qu'une famille monastique n'est pas entièrement le substitut d'une famille naturelle. C'est une famille spirituelle. On se retrouve avec 60 frères et chacun avec des tempéraments très très différents, des goûts qui peuvent être très différents, donc une vie commune qui n'est pas toujours très facile. Il y a des moments où la charité ne doit pas reposer sur le sentiment, mais reposer vraiment sur la volonté. Hein? Et encore une fois, ce n'est pas la même chose qu'une famille naturelle. Et il faut faire attention à cela. Quand on entre dans un monastère, il ne s'agit pas de trouver une protection analogue à celle qu'on trouverait dans une famille ordinaire. Un père de substitution. Hein? Pas du tout. On n'entre pas au monastère par désir de sécurité. On entre pour aimer Dieu. D'ailleurs, ceux qui entreraient au monastère par désir de pure sécurité n'y resteraient pas, en fait. L'expérience apprend qu'ils ne peuvent pas tenir. Eh bien, donc stabilité dans le monastère. Il ne faut pas oublier que pour nos pères, la vie communautaire, donc, n'a pas de but en soi. Attention, un monastère chrétien, toute question politique mise à part, n'est pas un kibbutz. C'est pas une société qui a plutôt but en soi, une sorte de socialisme religieux. C'est une communauté où l'on se retrouve pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Et en principe, tout dans la vie monastique doit être orienté vers cela. Donc, une vie de recueillement, une vie de retraite du monde, d'où la clôture, d'où la vie communautaire. Alors, pour donner des exemples concrets, donc toute sortie, comme je le disais, doit être permise par le père abbé. Don Guéranger, notre père et fondateur, disait, ce qui vous fera plaisir, que les familles des moines faisaient en quelque sorte partie de la communauté. Donc, nous sommes très ouverts à nos familles et nous pouvons recevoir les visites de nos familles et de nos amis du moment que nous prévenions le père abbé, afin qu'il y ait une certaine mesure. Hein. Donc, là aussi, nous avons un rôle dans nos familles, un rôle presque apostolique, je dirais, mais toujours aussi dans une certaine mesure. Donc, nous avons des parloirs à l'abbaye. Nous pouvons donc recevoir nos amis et nos familles. Un autre aspect de la vie bénédictine qui est un peu lié avec ce que je viens d'expliquer, c'est le silence. Saint Benoît y insiste beaucoup. Donc, il bannit toute parole inutile. Et pendant la nuit et à partir du soir, en principe, on ne dit rien. Où l'on s'exprime très rapidement par signe si l'on veut dire quelque chose, sauf cas de nécessité absolue. Donc, certains moines au Moyen-Âge poussaient très loin cette recherche du silence, puisqu'on raconte que saint Étienne de Grandmont, voyageant avec des moines, étant attaqué par une troupe de brigands, réussit à garder le silence donc dans cette circonstance. Je ne sais pas comment ils s'en est tiré, mais enfin, bon, nous n'allons pas jusque-là. Donc le silence absolu chez nous, c'est pendant la nuit, et pendant le jour, nous nous efforçons de bannir les paroles inutiles. Mais, chose qui n'existait pas chez saint Benoît, nous avons des récréations. Ces récréations ont été introduites à l'abbaye de Cluny à partir, disons, à peu près du XIe siècle. Et il y avait à Cluny une récréation le matin et une récréation après le déjeuner. Alors chez nous, nous avons presque tous les jours une récréation après le déjeuner. Le but de cette récréation étant, comme le mot l'indique, de reposer notre âme. Comme dit un père de l'Église, le plaisir repose l'âme. Donc, alors encore une fois, le silence chez nous n'est pas un silence matériel absolu. On a pu dire, enfin, c'est saint Basile, au IVe siècle, qui écrit « Le silence est l'art de se servir de la parole », ce que vous apprécierez, je crois. Donc, voyez-vous, même si vous êtes très bavard ou bavarde, donc, vous pouvez connaître le silence spirituel si vous savez bien vous servir de la parole. Donc, par ailleurs, un climat de silence est nécessaire à la prière. On disait de saint Hugues, abbé de Cluny, qu'il ne parlait qu'à Dieu et que de Dieu. On n'est pas forcé de suivre cela littéralement. Mais, voyez-vous, il y a un esprit à garder. À propos du recueillement, notre père, Don Guéranger, écrivait cela. Le recueillement monastique n'est point un effort de tête qui fatigue le cerveau, mais la conséquence de l'union de notre être sur l'objet qui nous plaît. C'est-à-dire que le silence est une question d'amour. On aime Dieu, et c'est pour ça qu'on évite le bavardage inutile. Don Guéranger, dans une conférence qui doit dater de 1874, écrivait déjà que le silence monastique est compatible avec la lecture du journal. Nous avons des journaux chez nous. Donc, nous avons Ouest France, Tous les jours, et La Croix. Plus, je suis bibliothécaire, beaucoup, beaucoup de revues donc, auxquelles nous sommes abonnés. Donc, nous avons beaucoup de lectures. Et Don Guéranger écrivait « Quand on rencontre dans le journal un mot qui puisse faire vibrer notre âme, gardez-vous de l'empêcher de vibrer. » Voilà, je vous laisse cette consigne. Donc, on peut vibrer spirituellement, même en lisant le journal. Donc, tout arrive. Alors, oui. Donc, le recueillement, le silence monastique, est une question d'amour. Alors, là, tout ce que je vous ai dit, c'est la conséquence du vœu de stabilité. Et puis, il y a le vœu de conversion des mœurs, c'est-à-dire qu'on va se convertir. Soit dit en passant, on n'entre pas au monastère parce qu'on est vertueux, mais pour le devenir. On entre au monastère pour devenir un saint, pas parce qu'on l'est déjà. Don Guéranger, notre père, avait reçu la demande d'entrée d'un prêtre qui avait fait quelque chose de grave. Et bon, la police avait fermé les yeux, mais l'évêché lui avait dit « Mon cher père, vous auriez intérêt à entrer dans un monastère. » Et on a reproché à Don Guéranger d'accepter ce prêtre. Et Don Guéranger a dit « Mais le monastère n'est pas fait pour des prix de vertu. Il est fait au contraire pour accueillir des âmes qui veulent se repentir et qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. » Donc c'est toujours bon à se rappeler. De même, si vous voyez un moine, je ne parle pas de moi, qui a mauvais caractère, ça peut arriver, que voulez-vous. Ce n'est pas forcément sa faute. On entre au monastère pour s'améliorer, pas parce qu'on est parfait en tout. Voilà, donc, mais c'est valable pour vous aussi. Alors, vœu de conversion des mœurs. Il comprend en fait les trois vœux classiques, pauvreté, obéissance, chasteté. C'est donc réuni en un seul, le vœu de conversion des mœurs. Alors, je voudrais un petit peu, très rapidement, en parler. La pauvreté. Eh bien, le moine bénédictin renonce, à partir des vœux solennels, à toute propriété. Et même, c'est assez impressionnant, il doit faire son testament. Il fait son testament, enfin donc, et en principe, il renonce à toute propriété. C'est donc le monastère, si vous voulez, qui va lui donner tout. Saint Benoît le dit, même à l'époque, on n'avait pas de stylo, on n'avait pas de point de bic, il dit, même un stylet pour écrire, eh bien, un moine ne doit pas avoir de stylet en propriété. Donc, nos vêtements, tout ce qui nous sert à écrire, tout nous est donné. Concrètement, pour vous donner un petit peu un exemple, nous avons chez nous, alors nous avons quand même dans notre chambre, ce que nous disons notre cellule, en termes monastiques, cellula, petite chambre. Dans notre cellule, nous avons quelques objets que nous avons l'autorisation de garder. On dit que ce sont des objets à notre usage. Par exemple, une Bible, quoi d'autre encore, des images pieuses. Par exemple, des choses comme cela, usuelles, que nous avons chez nous. Et puis, nous avons une armoire, une grande armoire, qui est périodiquement renouvelée par le père chambrier, où il y a toutes sortes de choses. Du papier, des stylos, tout, du savon, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, une énorme armoire. Et puis, quand on a besoin de quelque chose, on va à ce qu'on appelle la boutique. Et la boutique, c'est un local où il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Hein, tout. Et alors, c'est prodigieux, d'ailleurs, je ne sais pas comment le père fait. Alors, donc, on va tout y trouver, mais ça nous est donné. Hein. Donc, on n'a pas d'argent, sur soi, sauf si, quand on sort, on a besoin d'acheter quelque chose, évidemment, mais sinon, l'argent est aux mains du père économe, que nous appelons chez nous le père célérier. Donc, tout, écrit Saint Benoît, vient du père du monastère. Hein. Comme notre santé elle-même ne nous appartient pas. Vous savez, on dit souvent, quand on veut exhorter quelqu'un à être raisonnable, « Votre santé, cher monsieur, ne vous appartient pas. » Un moine, c'est la même chose. C'est-à-dire que, eh bien, dès qu'il a quelque chose, il doit aller voir le père infirmier, et puis, même s'il n'est pas content de ce que dit le père infirmier, bon ben, voilà. Le moindre médicament doit être autorisé. Donc, même dans ce domaine, nous dépendons du père abbé et de ceux, justement, qui le représentent. Excusez-moi, je me... Ah, oh, voilà. Donc, évidemment, cette pauvreté, dont le but essentiel est de nous unir à Dieu, est aussi quelque chose que nous pouvons donner aux pauvres. Dans un monastère, si l'on gaspille, ce qui appartient aux pauvres. Donc, et Saint Benoît le dit, un des rôles essentiels du monastère, c'est l'aumône, pas seulement temporelle, mais spirituelle. C'est-à-dire qu'un moine, surtout les prêtres, mais aussi parfois des non-prêtres, peuvent et doivent accueillir, donc à l'hôtellerie ou au parloir, des personnes recherchant un secours, un conseil, une aide. Donc, dans la communauté elle-même, il arrive qu'il y ait des pauvretés. Notre père maître, le père Michel Robert, qui est actuellement au Sénégal, à qui je dois beaucoup, nous disait, dans la communauté, nous sommes tous des pauvres, en ce sens que nous avons tous des défauts et des lacunes. Donc, il y a particulièrement certains d'entre nous qui sont peut-être plus pauvres que d'autres, et c'est la vérification de ce que disait Jésus, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc, ce n'est pas seulement des pauvres matériels, c'est aussi des pauvres de caractère spirituel. Alors, encore une chose sur la pauvreté. L'orientation essentielle, c'est l'abandon des biens terrestres pour le Seigneur. La deuxième dimension, qui est subordonnée à celle-ci, c'est le partage des biens en communauté. Mais ce partage des biens ne peut être qu'en liaison avec une union des âmes. Également, un exemple qui vous amusera, Saint Benoît dit que pour manifester que le moine n'a plus de propriété, il ne doit jamais dire « mon » ou « ma ». Ma Bible ou mon stylo. Alors nous disons toujours notre Bible ou notre stylo. On ne dit jamais de même notre cellule, etc. Pour tous les biens extérieurs, on ne dit jamais, on nous apprend ça au noviciat, à n'employer jamais de terme de propriété. Comme le disait un moine du IVe siècle, Évagre, ne dis pas cela est à moi, dans le Christ Jésus, toutes choses sont communes. Voilà pour la pauvreté. Je voudrais dire quelques mots de la chasteté. C'est un sujet délicat qui doit être parlé en public avec délicatesse, mais je voudrais en dire un mot. Saint Benoît dit qu'il faut aimer la chasteté. Chez nous, la chasteté, c'est le célibat, évidemment, puisqu'il y a une chasteté dans le mariage, mais ça révèle donc cette forme du célibat consacré qui est essentielle au monachisme. Donc, en Occident et en Orient, on ne conçoit pas de moine qui ne soit pas donc consacré à Dieu entièrement. Aimer la chasteté, c'est une question d'amour. Hein? C'est le signe de l'attente du royaume de Dieu. Donc, on renonce donc au mariage car on veut se donner entièrement au service de Dieu, de la communauté, de la contemplation. Donc, s'il y a amour, c'est beaucoup plus qu'une abstention. Ce n'est pas du tout un souci d'hygiène, ni bien sûr, heureusement, un calcul égoïste. Il s'agit d'éviter, selon l'enseignement de saint Paul, auquel je vous renvoie, tout partage du cœur. La chasteté physique doit être disposition à la charité et à la générosité. Mon père maître a dit une fois dans ses conférences, et j'ai noté la phrase, « Le démon est à l'aise dans les âmes sombres et closes. » Il n'y a pas de chasteté qui ne soit aussi joie et ouverture à l'autre. Un grand spirituel du XVIIIe siècle français, Ambroise de Lombès, qui est très connu chez les franciscains, disait que la meilleure manière de lutter contre la tentation, c'est la joie. Donc, et que la joie ça accompagne la chasteté. Donc, par ailleurs, la charité fait juger de la pureté. Donc, la charité et l'étude. Saint Jérôme disait « Aimez la science des Écritures, vous n'aimerez pas l'impureté. » Le fait de contempler ce qui est beau, d'aimer ce qui est beau, nous détourne, doit nous détourner, comme disait le père abbé Dondelatte, des impulsions brutales de la chair et du sang. Voilà donc ce que je pourrais dire sur la chasteté. Maintenant, le troisième vœu, le surveilleur, c'est l'obéissance. L'obéissance, eh bien, nous obéissons à un abbé qui est notre père et notre pasteur. Donc, comme je le disais, l'abbé a une fonction vicaire. Il tient la place du Christ. En fait, comme le disait le père abbé Dondelatte à Solesmes, le véritable abbé, c'est le Christ. Et l'abbé du monastère en tient la place. Dondelatte disait, supposons que le Christ apparaisse au chapitre, le père abbé n'aurait plus qu'à lui donner sa crosse. le père abbé, donc, n'est que le vicaire du Christ. Alors, à l'origine, au début du monachisme, souvent il arrivait que le père spirituel du monastère était choisi par son prédécesseur. C'était le cas en Égypte. Et puis très vite, de toute façon assez naturelle, on en est arrivé à l'élection de l'abbé. Donc, à l'origine, du temps de Saint-Benoît, l'élection devait être confirmée par l'évêque du lieu. Actuellement, pour simplifier, chez nous, l'abbé est élu à vie. Est élu à vie, avec bien sûr confirmation du Saint-Siège. Donc, puisque nous dépendons directement du pape. Donc, et il est élu à vie, mais il peut bien sûr donner sa démission. Donc, les moines votent pour l'abbé. L'abbé est-il un monarque? Oui et non. Il est père. Donc, comme le Christ, sa royauté est une royauté de paternité, si vous voulez, ce n'est pas une monarchie absolue. Car le père abbé doit, d'après la sainte règle, consulter les moines. Saint Benoît dit qu'en toute chose, il doit demander conseil. Et ce qui est remarquable, c'est que l'Église catholique a tenu à ce que les pouvoirs de l'abbé soient limités. Et même, ils sont plus limités dans les faits qu'ils ne le sont dans la sainte règle. Car l'Église a toujours, a toujours eu peur que les supérieurs abusent de leur pouvoir. Donc, toujours limiter le pouvoir du supérieur. Alors, dès les temps du monachisme égyptien, il y avait un conseil des anciens qui assistait le père abbé. Et chez saint Benoît, vous avez la même chose, avec cette précision remarquable que pour les questions les plus importantes, on consultera toute la communauté. Et alors, comme chez saint Benoît, il y avait des enfants, le monastère pouvait recevoir des enfants, on précise même qu'on peut consulter les enfants, car, dit saint Benoît, il arrive que l'Esprit Saint s'exprime à travers eux, comme il l'a fait pour le jeune Samuel dans la Bible, ou pour le jeune Daniel. Alors, actuellement, le père abbé a, c'est d'ailleurs vrai dans tous les monastères bénédictins, deux conseils. Un conseil restreint, mais dont certains membres sont élus par la communauté, et dont d'autres membres sont nommés par l'abbé, donc il y a les deux, un conseil restreint, qui se réunit au moins une fois par semaine, et puis, pour les questions vraiment très graves, toute la communauté des prophètes solennels se réunit dans la pièce qu'on appelle le chapitre, capitulum, pour éventuellement délibérer et même voter. On peut se demander d'ailleurs si, du moins pour des pays comme la Suisse, ou même l'Angleterre, certaines formes de démocratie n'ont pas tiré leur origine de pratiques monastiques, avec le vote, donc l'usage de voter avec des boules blanches, des boules noires, donc qui existent chez nous. Donc vous voyez que obéissance, mais on ne peut pas dire que l'obéissance bénédictine soit une obéissance aveugle. L'abbé doit consulter, demander l'avis. Alors une fois que la décision a été prise. Là, saint Benoît est formel. On peut, je dirais même qu'on doit parfois, dire à l'abbé, cher père, à mon avis, ce n'est pas réalisable. Bon, on peut discuter. Mais si l'abbé, dit saint Benoît, maintient son avis, il faut croire que l'Esprit Saint nous donnera la force de faire ce qu'il faut. Voilà. Là, c'est vraiment une vue de foi surnaturelle. Mais vous voyez que l'abbé doit prendre conseil. Dieu seul, finalement, n'a pas besoin de conseil extérieur à lui-même. Hein? Il y a des cas, d'ailleurs, où nos constitutions, quand nous avons des constitutions, prévoient que, obligatoirement, l'abbé doit réunir le chapitre, par exemple, pour admettre un novice à la profession. Donc, l'abbé présente le novice, et puis chacun dit son petit grain de sel, s'il le veut. Et l'abbé dit, eh bien écoutez, dans quelques jours, nous nous réunirons à nouveau pour voter. Et donc, nous votons pour l'admission à la profession du novice. Et c'est obligatoire. Et si par hasard, ce qui arrive très rarement, un novice est refusé par le vote, l'abbé n'y pourrait rien. Voilà. Par ailleurs, on obéit à son abbé. Si on estime qu'il se trompe, on n'est pas tenu de changer d'idée intérieurement. Hein? On obéit quand même. Il faut obéir quand même, quitte à garder son sentiment, donc, mais en se soumettant, donc, avec humilité, tout en estimant parfois que peut-être bah, il aurait mieux valu faire autrement. Mais, voilà. Cette obéissance est aussi pas seulement une obéissance à l'abbé, mais par amour, c'est une obéissance mutuelle. C'est-à-dire que la Sainte Règle prévoit qu'en principe, on s'obéit mutuellement les uns les autres. Ce qui est peut-être le plus difficile, parce que, eh bien, il faut obéir d'abord à ceux qui ont autorité. Donc le père prieur, etc., etc., qui ont autorité dans chacun de leurs services. Et puis même, éventuellement, mais avec mesure, quand un frère vous demande un service, eh bien, là, souvent, il faut le faire du moment que ce service, comment dirais-je, ne contredise pas ce que demande l'abbé et les officiers qui sont en dessous de l'abbé. Hein. Là, il y a un peu de jugement à avoir. Donc, notre vie, maintenant, donc j'ai parlé un petit peu de ces trois vœux, eh bien, notre vie, bien sûr, comporte travail, prière, lecture, étude. Bien sûr, c'est la prière qui est la plus importante, avec la célébration liturgique, qui, comme l'a dit Don Guéranger, est l'action la plus importante de l'Église de Dieu, hein, parce que c'est le Christ qui y agit lui-même. Il faut remarquer, chose assez que vous ne savez peut-être pas, que du temps de Saint Benoît, donc 5e siècle, la messe n'était dite que chaque dimanche. C'était l'ancien usage de la chrétienté, c'est-à-dire qu'on ne disait la messe que le dimanche. Vous avez encore des églises orientales, je crois que c'est le cas en Éthiopie, et dans l'église syriaque, où la messe n'est jamais dite en semaine. Mais, et c'est un bienfait, dans les siècles suivants, dans l'église d'Occident, surtout à partir du 8e siècle, la messe quotidienne est entrée en usage dans les monastères bénédictins et un peu partout. Nous avons donc l'office divin, c'est-à-dire les heures de l'office, l'aude, vêpres, etc. Ces heures de l'office divin qui sont, comme le disait le père abbé Don de Latte, comme le rayonnement de l'Eucharistie. Mais ces heures de l'office, ici, sont un héritage de la prière juive. Certainement. Comme disait Don Guéranger, notre but, c'est de rendre gloire à Dieu par la prière de l'Église. Alors, je voudrais conclure en disant que nos activités peuvent être très variées. Bon, j'ai parlé de la liturgie, il y a le travail manuel, et puis les activités intellectuelles. Éventuellement, le même moine peut, et même c'est souvent le cas, travailler à la fois manuellement et intellectuellement. En effet, dans la vie monastique, comme dans toute vie chrétienne, toutes les facultés humaines doivent être sanctifiées. Donc, la volonté, l'amour, mais aussi l'intelligence. Pour aimer, il faut connaître Dieu. Il faut donc approfondir notre foi. C'est l'important chez nous de ce que nous appelons la lectio divina, c'est-à-dire la lecture méditée de la Sainte Écriture et des ouvrages qui nous parlent de Dieu. Du temps de Saint Benoît, Saint Benoît dit dans la règle qu'on doit lire l'Écriture et les pères orthodoxes. Bon, c'est déjà assez vaste, voyez-vous, comme programme. D'où l'importance de la lecture. Hein. En général, dans les monastères médiévaux, on apprenait toujours à lire et à écrire. Beaucoup de moines arrivaient sans le savoir, mais il fallait l'apprendre. Le père Faber, au 19e, a pu dire « Un certain goût de la lecture est fort utile pour la vie spirituelle. » Au Moyen-Âge et même avant, beaucoup de moines savaient une grande partie du Nouveau Testament et le psautit par cœur. Beaucoup de choses étaient chantées et récitées au cœur par cœur, étaient récitées à l'église par cœur. D'autant plus que dans les offices de nuit, On avait des chandelles pour s'éclairer, des lampes. Alors il y avait quelques lampes pour les chantres. Et puis les autres moines chantaient par cœur, reprenant les antiennes données par le chantre. Alors actuellement, ce n'est plus le cas. Donc nous avons la lumière électrique. Mais donc nous avons ce désir toujours d'approfondir, si vous voulez, l'enseignement que nous avons reçu donc à l'intérieur de notre cœur. Donc, et pour terminer, Saint Benoît attache beaucoup d'importance au travail manuel sans en faire une obligation stricte. Mais il dit que quand les moines travailleront de leurs mains, c'est alors qu'ils ressembleront le mieux aux saints apôtres, puisque Saint Paul faisait des tentes, hein, vous l'avez lu dans les Actes des Apôtres. Donc c'est le fait pour le monastère, pour les moines, de n'être à la charge de personne, et aussi un témoignage de pauvreté. Voilà, je crois que, déjà je parle depuis 3 quarts d'heure, donc ce qui fait beaucoup, je vais arrêter maintenant, donc, mais je demanderai à mieux que de répondre à des questions, éventuellement, si vous le désirez.
Donc Guéranger est devenu bénédictin, j'imagine,
le
prêtre diocésain.
Oui, c'est un cas tout à fait unique dans l'histoire du monachisme, car Don Guéranger était prêtre, mais n'avait pas eu du tout de noviciat dans une communauté bénédictine. Donc, avec les moyens du bord, il a restauré une communauté avec Don Fontaine, qui était son ami, qui était prêtre, et peut-être deux autres frères, il ne devait pas être plus de 4, je crois. Il a du tout improvisé, d'après la connaissance qu'il avait de la vie monastique. Ce qui est une des causes des grandes difficultés qu'il a eues. Pour être juste, je crois que c'est la même chose pour le fondateur de la pierre qui vire, le père Muard. Donc, en France, le monachisme a été restauré, bénédictin, a été restauré par de non-bénédictins, mais qui le sont devenus. Alors que les cisterciens, les trappistes, ont été restaurés par des trappistes. Puisqu'en 1814, c'est, le nom m'échappe, c'est un moine, trappiste, revenu d'exil, qui a rouvert les trappes en France. Donc, je crois que c'était à la Mellerais. Ça n'a pas été le cas du tout chez nous. Alors, au moment où la communauté de Solesmes a été reconnue par le Saint-Siège, Don Guéranger a fait, pour des raisons d'ordre juridique, un noviciat peut-être d'un mois à l'abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome, et a prononcé des vœux solennels, donc ces vœux de moine à Saint-Paul-hors-les-Murs. Donc j'ai vu la chapelle, il a prononcé ses vœux. Donc, et mais voilà. Donc c'est un cas en fait unique parce que à cause de la Révolution française qui avait fait une. Vous avez dit la même chose pour l'accordaire et les dominicains. L'ordre dominicain en France a été restauré par l'accordaire, mais donc qui s'est rattaché aux dominicains italiens, qui eux avaient subsisté. Mais donc il a dû restaurer l'ordre dominicain en France à partir du néant.
Moi, c'est une question pratique.
Je vous en prie, madame.
Pour quelque raison que ce soit, un mois au bout de 10 ou 15 ans, par exemple, raison de santé ou autre, est obligé ou veut partir du monastère. Quelles sont ces garanties, par exemple lorsqu'il sort sécurité sociale, etc. Parce qu'en principe, il se retrouve sans rien du tout.
Ah ben, de toute façon, quelles que soient les raisons et le mode de la sortie, oui. Un moine, même un ancien moine, n'est jamais laissé, on ne laisse jamais tomber. Donc on s'occupe de tout cela. Là, si vous voulez, ça, il y a bien sûr, quel que soit, mais ça me serait difficile de donner des exemples concrets. Alors sinon, il peut arriver, et pour des raisons tout à fait honorables, qu'un moine doive sortir, par exemple pour des raisons de santé. Donc, alors il y a plusieurs possibilités. Il peut tout à fait, et c'est même assez fréquent, j'ai connu plusieurs cas, rester moine à part entière et continuer à porter l'habit, tout en étant, comme on dit, détaché à l'extérieur, pour une mission particulière, avec l'autorisation de l'abbé. Par exemple, il peut être aumônier de religieuses, aumônier de prison, donc d'autres cas par exemple, mais il reste moine. Donc, alors, il peut y avoir d'autres cas où vraiment, alors dans ce cas-là, il reste par exemple prêtre, il reste prêtre, donc, mais il quitte l'ordre monastique pour devenir prêtre séculier. Donc là, il y a quand même, il faut demander à Rome une dispense des vœux solennels monastiques. Je dis bien monastique. Donc, et Rome peut accorder effectivement une dispense des vœux solennels. Ces vœux solennels sont définitifs, mais l'autorité du siège apostolique peut en dispenser.
Ça, je le comprends bien.
C'est ça.
Et moi, c'est du niveau pratique parce que dans le monde dans lequel nous vivons.
Il n'est jamais question. Il n'est jamais question pour un monastère de laisser tomber quelqu'un qui a vécu avec nous. Je dirais encore, quel que soit ce qui est arrivé. Donc, certainement. Oui, et
c'est assez court. Je vous ai fait un parallèle entre la famille monastique et la famille, entre guillemets, naturelle. Enfin, la famille,
oui.
Et en disant que la charité monastique, si je puis dire, nécessitait un acte de volonté parce que c'était plus une affaire de volonté que de sentiment parce que est-ce que vous ne pensez pas que dans la famille entre guillemets naturelle,
certainement,
il y a aussi des moments assez fréquents peut-être même où la charité qui doit s'exercer au sein de la famille doit participer plus de la décision que du sentiment.
Bien sûr, effectivement, puisque la fidélité. Donc la fidélité, effectivement, donc eh bien c'est une question de charité, justement, d'amour. Il ne faut pas oublier que l'amour, au sens théologique du terme, est plus qu'un sentiment, toujours. Or, donc, l'amour de charité, il est dans la volonté, il peut impliquer le sentiment. Le sentiment n'est pas en soi une mauvaise chose. Donc, saint Thomas d'Aquin dit que le plaisir est une bonne chose. Donc, le plaisir, c'est le fait que nous goûtions l'acte que nous faisons. Quand nous prenons du plaisir à manger, c'est pas un péché, c'est le fait que nous apprécions ce que nous faisons. Eh bien, le plaisir est toujours une bonne chose qui vient de Dieu quand il est dans l'ordre. Alors, l'amour, si vous voulez, il est dans la volonté, et c'est l'amour de charité qui joue dans le mariage comme dans la vie religieuse. C'est tout à fait vrai. Peut-être simplement que dans une vie communautaire où on est à la fois très proches les uns des autres et en même temps on est proche d'une soixantaine de frères, il y a un effort particulier à faire. Certainement. Je crois aussi que dans la vie bénédictine, on est très complémentaires les uns des autres. Parce que la vie monastique comporte à l'intérieur même du monastère des vocations particulières très différentes. Il y en a qui sont vraiment faits pour l'étude davantage, d'autres pour le travail manuel, etc., etc. Et là, il faut que chacun accepte donc la complémentarité de l'autre, hein, sans compter d'autres différences de tempérament et de goût.
Sur le plan, disons, historique, quelles ont été les conséquences des lois de 1905 pour l'abbaye de Solesmes?
Alors, en 1905, vous savez que il fallait que les congrégations demandent l'autorisation. En fait, c'était le piège. La plupart des congrégations se sont vues refuser l'autorisation, sauf les trappistes, grâce à une intervention assez extraordinaire de Don Chotard auprès directement de Clémenceau. Et Clémenceau a tellement été séduit par Don Chotard qu'il a dit, écoutez, je vais arranger votre affaire, on va mettre votre dossier dans une pile et on va s'arranger pour qu'au moment où la discussion aura lieu au Sénat, je m'arrangerai pour que certains sénateurs qui étaient connus pour être francs-maçons, particulièrement sectaires, soient absents. Et comme ça, donc Clémenceau a réussi à obtenir que les trappistes restent en France et en Algérie. Pour les bénédictins de Solesmes, ils étaient très mal vus. Auprès des dirigeants de l'époque, particulièrement mal vus, un peu moins que les jésuites, mais presque. Et Dom Paul de Latte Ça avait, de toute façon, l'autorisation serait refusée à Solesmes, parce qu'on avait la réputation, tout à fait justifiée, d'être très romain, très ultramontain. Donc, et d'autres choses aussi. Alors, et de plus, le père abbé Dontella disait, je ne veux même pas essayer de demander l'autorisation, car ce serait une lâcheté, car nous sommes déjà autorisés par le droit naturel et le droit commun. Nous n'avons pas demandé l'autorisation, c'est un scandale, car nous l'avons. Tout citoyen doit pouvoir se réunir et s'associer avec un autre, du moment qu'il ne recherche pas un but contraire à la morale. Donc je refuse de demander l'autorisation. Donc, sans même faire une démarche, une demande, il a décidé de partir en Angleterre. Voilà, au point de vue juridique, ce qui s'est passé. On aurait pu essayer de demander l'autorisation. On ne sait pas ce que ça aurait donné. Mais Dondela a fait ce choix de refuser de la demander. En 1880, il y avait déjà eu... Alors, c'était différent... Là, c'était le gouvernement avec Jules Ferry qui avait décidé que les congrégations non autorisées devraient être dissoutes. Parmi ces congrégations non autorisées figuraient les bénédictins. Alors là, c'était dramatique puisque c'était du temps du père abbé Don Couturier. Les moines ont décidé de rester sur place et de soutenir un siège. Alors la gendarmerie est venue et un siège pacifique nous a expulsés. A expulsé les moines qui se sont installés dans les maisons du village et les petits châteaux des alentours. Donc la bibliothèque était répartie en 5 endroits différents, donc qui se trouvaient dans la grande rue, paraît-il. Alors ça a duré jusque vers 1895, où à la suite d'une intervention du roi d'Espagne, Alphonse XIII, les bénédictins ont pu rentrer dans leur monastère. À l'époque d'ailleurs, c'était le gouvernement de Jules Méline, qui était un gouvernement d'apaisement, républicain modéré, mais il y a eu l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus, vous le savez, a été l'occasion d'une prise de pouvoir par les radicaux et d'un regain d'anticléricalisme très fort. Donc, et ça a été la loi Valdec-Rousseau, loi en fait en elle-même libérale sur le droit d'association, mais dont les congrégations religieuses ont été exclues. C'est le problème, justement. Donc, voilà, les conséquences juridiques. Alors, donc nous sommes allés en Angleterre. En 1914, la guerre éclate. Dondelat a dit, j'estime, on nous a enlevé tous nos droits, nous n'avons plus de devoirs. Donc, moi, je reste. Et je vous engage à rester ici et à vous faire porter déserteur. Mais ceux qui veulent rentrer, qui estiment que c'est leur conscience de faire leur service, de partir à la guerre, peuvent le faire. Alors, il y a certains moines qui sont partis, qui sont battus en France, et d'autres qui sont restés en Angleterre. Après la guerre, la situation était dans l'apaisement, et l'un d'entre nous, que j'ai connu d'ailleurs, était à Rome à ce moment-là, et a rencontré un haut personnage français qui lui a dit « Oh, mais j'aime beaucoup les bénédictins de Solesmes, je pourrais, pour certains d'entre vous, notamment pour vous, avoir la croix de la Légion d'honneur. » Ah ben oui. Comme on est porté comme déserteur, ça ferait bien. Bon. Alors en fait, on a conclu qu'on nous raillerait justement du rôle de déserteur. Et quand a été élue la fameuse chambre bleu horizon, sans qu'il y ait de vote, les moines ont décidé de rentrer. Et ils n'ont pas été inquiétés. Et c'est à ce moment-là que la plupart des congrégations religieuses sont rentrées en France sans reconnaissance officielle. Et alors quand est arrivé le bloc des gauches, qui était très anticlérical, vous savez que Édouard Herriot a voulu à nouveau que les moines, tous les religieux, s'en aillent. C'est à ce moment-là que le père Doncoeur, je crois que c'est le père Doncoeur, a fait cette phrase célèbre, « Nous ne partirons pas ». Donc, voilà. C'est donc les moines de Solesmes, depuis le retour d'exil, sont restés toujours ici.
Le retour d'exil a eu lieu
1923, je crois. C'est à peu près au moment de la chambre bleue horizon. Comme on dit. Voilà. Oui.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, si je comprends bien, vous n'avez toujours pas de reconnaissance légale.
Non, pas comme pas vraiment comme congrégation, mais nous avons une sécurité sociale spéciale pour nous, néanmoins, qui a été votée grâce aux bons soins de M. Jean Foyer. Donc, alors c'est fait, en fait, nous ne tenons pas du tout à être reconnus, parce qu'une association reconnue, l'État peut s'en mêler. Tandis que nous, nous sommes tranquilles, actuellement, si vous voulez. Donc, voilà.
Ça ne vous pose pas de difficultés pour recueillir des legs?
Alors là, je vous dirais que là, je n'y connais rien. Il faudrait demander au Père Célérier. Il y a des trucs. Parce que, si vous voulez, nous avons... nous avons plus... On peut faire... Si, on peut faire un leg, par exemple, à la société Jean Bouglet. Société Jean Bouglet, par exemple. On va faire un leg à la société Jean Bouglet. Alors voilà, il y a des trucs. Mais je ne connais pas le détail. Hein.
Est-ce qu'il y a eu il y a eu un bénédictin, le Père Legal, qui est maintenant évêque de Toulouse?
C'est
dans une autre partie.
C'est ça, voilà.
Est-ce qu'il y en a aussi chez vous, à Solem?
Alors, parce que chez nous, à Solem, on a toujours redouté que l'un d'entre nous devienne évêque. Donc, parce qu'un moine qui devient évêque, il ne peut plus être moine.
Oui,
donc, voilà.
Qu'on parle de relever les vœux, c'est un peu le cas.
Non. Il reste en principe bénédictin.
Des obligations.
Mais il ne peut plus vivre, il est évêque. Alors, justement, ça a été un des seuls cas. C'était le Père Legal, qui était donc abbé de Kergonan, en Bretagne. Oui, c'est là, effectivement. Mais sinon, en France, d'ailleurs, en général, il y a très, très peu de bénédictins évêques. Donc, beaucoup plus dans d'autres pays. Donc, il faut dire aussi qu'en France, c'est souvent des bénédictins contemplatifs qui ne sont pas forcément faits pour un apostolat. En Allemagne, en Autriche, en d'autres pays, les bénédictins tiennent des paroisses. On sont beaucoup plus au coup, plus habitués, si vous voulez, aux choses du monde. Voilà. Donc, au Moyen-Âge, on disait, il ne faut jamais laisser entrer dans la clôture monastique une femme et un évêque. Bon, parce que l'évêque voudra prendre les moines pour en faire des prêtres.
Voilà.
Donc, on disait...
Mais vous avez comme des lunettes. Nos lunettes sont à vos dioptries quand même, on est d'accord?
Ah oui, non, mais pour les lunettes, nous rassurez-vous. On a... Non, mais au point de vue médical et tout, disons, dès qu'il y a nécessité, on fait tout ce qu'il faut. Donc, Oui?
Qui ordonne les prêtres?
Ah, alors oui, il faut tout de même un évêque. Donc, parce que l'abbé n'est pas évêque au point de vue. Il a, si vous voulez, il dépend du Saint-Siège, il porte une mitre, il a une crosse, mais il n'a pas vous savez que le degré suprême du sacrement de l'ordre, c'est l'épiscopat. Le concile l'a très nettement affirmé, le concile Vatican II, et lui seul peut ordonner des prêtres. Hein. Donc, il est arrivé que certains abbés de monastères soient aussi évêques au Moyen-Âge. Donc, c'était le cas au Mont-Cassin. Donc là, ils pouvaient ordonner tout ce qu'ils voulaient. Mais un monastère, habituellement dans l'Église catholique, doit demander à un évêque d'ordonner ses sujets. Alors, habituellement, et presque toujours chez nous, c'est l'évêque diocésain. Hein, sauf cas de vraiment... Une fois, Mgr Gilson était malade. Alors, à toute vitesse, on l'a appelé l'évêque de Laval. Donc, pour qu'il puisse ordonner, justement, deux prêtres chez nous. Parce que là, évidemment, pour l'ordination, et donc... je connais, alors là, ça s'est passé en Égypte, dans le monachisme égyptien non catholique, le patriarche d'Alexandrie voulait absolument ordonner prêtre un moine célèbre qui a restauré le monachisme copte, le père Matal Maskin. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler, qui était un saint homme, donc que d'ailleurs deux d'entre nous ont connu personnellement. Et le père Matal Maskin, qui était en fait un simple moine, ne voulait pas être prêtre par humilité. Alors, deux moines musclés l'ont pris de force, l'ont amené devant l'autel pour que le patriarche lui impose les mains. Et lui ne cessait de crier « Je ne veux pas, je ne veux pas ». Alors en fait, il n'a jamais été prêtre. Parce que vous avez qu'à... Pour être prêtre, il faut le vouloir.
Il faut dire oui.
Et on ne peut pas être ordonné prêtre malgré soi. Donc, c'est pour ça que chez nous, le père abbé, c'est ce qui s'est passé pour moi, il appelle au sacerdoce, c'est le père abbé qui appelle au sacerdoce, mais on peut refuser. Et le père abbé m'avait dit, est-ce que vous désirez être prêtre? Car je peux refuser. Je peux refuser. Ça c'est absolument, pour que le sacrement soit valide, il faut une acceptation.
Il y a combien de prêtres par rapport aux non-prêtres dans votre...
Alors, je n'ai pas fait de statistiques récentes, mais c'est presque plus de la moitié de la communauté. C'est une des caractéristiques de Solesmes, nous avons beaucoup de prêtres. Pour quelles raisons? Pas seulement pour des raisons pratiques, les confessions à entendre, pour des raisons spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie, selon nous, entre la consécration monastique et le sacerdoce. De soi, on peut être moine à part entière sans être prêtre, heureusement. Donc, mais il y a une certaine harmonie entre ces deux consécrations, ce qui fait que c'est une belle chose pour un monastère d'avoir beaucoup de prêtres, donc, et aussi pour manifester dans la concélébration, justement, l'unité de l'Église autour de l'autel. Donc c'est toujours une richesse d'avoir beaucoup de messes, richesse spirituelle, et beaucoup de prêtres. Et puis, alors bien sûr, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent se confesser, alors là, c'est bien d'avoir beaucoup de prêtres aussi pour nous. Il y a des monastères où les prêtres sont beaucoup moins nombreux par rapport, à l'ensemble de la communauté, mais c'est un peu la tradition solesmienne, alors que dans le monachisme primitif, et même jusqu'à l'époque mérovingienne, carolingienne, il n'y avait pas beaucoup de prêtres dans les monastères, pas beaucoup, et même on ne voulait pas trop. Justement pour que l'évêque n'ait pas trop son mot à dire.
Justement,
l'ordination, ça fait à partir de quel âge? Lisière, j'ai oublié mon droit canon. Il y a une limite. Oh, j'ai oublié. Parce que vous savez que le droit canon prévoit un âge minimum pour être... 25 ans peut-être. Ben, c'est un truc comme ça. Alors c'est la même règle pour nous. Alors, si vous voulez, concrètement, quand on veut être moine... Habituellement, on a au moins 2 ans de noviciat, et même plus parfois. Ensuite, on fait des vœux temporaires. Alors, 3 ans de vœux temporaires. Au bout de ces 3 ans, si tout va bien, on fait des vœux solennels. Et alors, l'ordination sacerdotale, pour ceux qui se destinent au sacerdoce, intervient habituellement quelque chose comme 3 ans après les vœux solennels. Le temps que l'on fasse toutes ces études de théologie. En fait, et ça qui est bien dans notre système, c'est que c'est beaucoup plus souple que cela. C'est-à-dire, selon les tempéraments, on peut rallonger toutes ces années. On ne peut pas diminuer, mais on peut rallonger si éventuellement quelqu'un a besoin d'une formation plus lente ou a besoin de réfléchir davantage. On peut aussi, par exemple, quand les 3 ans de vœux temporaires sont achevés, on peut renouveler ces vœux temporaires pour 1 an ou pour 3 ans. Si le père abbé estime que c'est nécessaire. Donc c'est un système assez souple. Donc, c'est pour répondre à votre question.
C'est le fils de nonne.
C'est un monastère qui vient.
Voilà.
Actuellement, vous avez beaucoup de novices, des postulants?
Actuellement, nous avons la chance d'avoir 6 novices, ce qui est beaucoup pour la France actuellement. Et vraiment, c'est une chance, hein, on se rend compte. Rien ne dit qu'ils persévéreront. Sans commettre d'indiscrétion, j'ai l'impression que oui, ça a l'air du solide, mais on ne sait pas. On ne sait pas, surtout actuellement. On ne peut jamais savoir. Donc, nous avons la chance d'avoir 6 novices. Donc, sur 60 à peu près. Mon père Mel disait d'ailleurs, l'idéal pour une communauté, c'est d'avoir un noviciat qui soit le 10e de la communauté. Voilà. C'est ça. Le noviciat, donc, il y a un père maître des novices qui s'occupe spécialement de la formation monastique et spirituelle des jeunes qui entrent.
Alors, sous le père abbé, il y a le père économe, c'est ça ?
Père-prieur.
Père-prieur
qui est juste sous lui et qui l'aide en tout. Alors, notamment, quand il y a un petit problème qui se pose, c'est plutôt le père-prieur qu'on va aller voir. Surtout que notre père abbé, non seulement est l'abbé de Solesmes, mais il est l'abbé supérieur de toute la congrégation.
Oui, d'accord. Oui, donc, des fois, il en voyage.
Alors, c'est terrible. C'est terrible, comme il faut prier pour lui, c'est terrible comme charge. Hein.
Le monastère, c'est l'avion, un peu, non
c'est ça. Oui, un petit peu. Un petit peu. Donc, enfin, alors, bon, il est très pris. Il est très, très pris.
Donc, c'est le père prieur qui est le point fixe.
Alors, le père prieur, si vous voulez, vous allez le voir pour dire, mon père, j'ai remarqué qu'il y a telle petite chose qui devrait être corrigée. C'est plutôt le père prieur que vous allez voir, si vous voulez. À moins que... Vous nous voyez le père abbé souvent, mais donc il y a des moines qui vont se confesser au père abbé. Hein. Mais c'est plutôt le père prieur qu'on va aller voir d'abord, si vous voulez, qui est donc juste le prieur. Et déjà, la règle de Saint-Benoît en parle, le prieur du monastère, prieur, et c'est donc celui qui aide l'abbé en tout, qui est juste sous lui. On a ensuite un père sous-prieur, et puis alors après viennent les différentes fonctions du monastère, qui sont plus ou moins importantes, comme le célérier, le père maître des novices, le dépositaire, qui est celui qui s'occupe de la nourriture. Dépositaire, c'est le vieux mot. Le portier, donc, voilà.
Je suppose que celui qui fait chanter a aussi une place.
Le maître de chœur, le maître de chœur. Oui, oui, effectivement, c'est une obédience très importante, bien sûr. C'est cela.